Bonjour à toutes et à tous. Nous avons commencé cette nouvelle année 2022. Je voudrais vous dire que ce n'est pas nous qui avons commencé cette année. Le nouvel an commence et commencera bien avec nous ou sans nous. Il y a plusieurs qui ont quitté ce monde sans avoir mis leurs pieds dans la nouvelle année 2022. Et surtout dans cette période de pandémie. Il y a c'était toujours de cette façon et ce sera ainsi dans ce monde. Je ne sais pas de quelle manière chacun a commencé ce nouvel an. Certains auraient pris de bonnes résolutions à suivre. Je me souviens de ce vieux proverbe en anglais qui dit « Une bonne résolution, c'est comme un vieux cheval, souvent scellé, mais rarement monté. » Si l'on pouvait vous demander à la fin de cette année 2022, dans quelle mesure vous avez réussi avec vos résolutions de nouvel an, que diriez-vous? En 1936, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Berlin, en Allemagne. Hitler pensait que ce serait la vitrine parfaite pour sa race aryenne. Cependant, Hitler a été surpris par des gens comme Jesse Owens, un athlète noir américain, et d'autres. Parmi les vraies surprises de ces Jeux olympiques, il y a eu la défaite de l'équipe allemande au relais 400 mètres, largement favori. Lorsque le canon de départ a retenti, les Allemands ont rapidement devancé les Américains et ont occupé la première place jusqu'à ce que le bâton soit passé au dernier coureur. Les Allemands avaient une avancée de 7 mètres, mais le coureur, donc, a lâché le bâton et les Allemands ont été disqualifiés. L'équipe allemande avait pris un départ parfait et avait fait une bonne course, mais à la fin, elle a appris la terrible vérité qu'un départ parfait ne promet pas une fin parfaite. Savez-vous ce que le sage Salomon avait à dire à ce sujet? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On pense qu'on a bien commencé cette année, mais le sage Salomon, il dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, 8. Il faut le dire ici que beaucoup commencent bien, mais ne terminent pas aussi bien. S'il vous plaît, ne vous retournez pas pour voir qui ne finirait pas bien dans leur course. C'est peut-être vous. Oui, je dis que cela pourrait être vous. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Notre Bible n'est pas une compilation d'histoires de réussite de grands hommes et de grandes femmes. L'authenticité de la Bible, qui est la parole de Dieu, est prouvée maintes et maintes fois parce qu'elle raconte les échecs de ces grands hommes et femmes sans aucune tentative de cacher leurs actes honteux. C'est important d'étudier les différents personnages de la Bible. La Bible est remplie de personnages au propre comme au figuré. Peut-être que la meilleure façon de décrire comment la Bible dépeint ces personnages est humain, parce qu'ils sont, en fait, humains. La Bible est vraie et des gens qui habitent ces pages étaient des vraies personnes avec des vrais problèmes, tout comme nous. Et Jacques le dit dans son épître, Élie était un homme de même nature que nous. Élie était un homme de même nature que nous, c'est-à-dire avec la même chair, l'os et le sang. Il n'était pas différent, il n'était pas surhumain. Mais pourtant, il a pu accomplir de grandes choses pour le Seigneur. La Bible n'hésite pas à présenter à la fois les forces et les faiblesses de ce qu'elle décrit. Cela rend les personnages de Bible pratiques dans le sens où nous pouvons nous rapporter à eux, nous identifier à eux, et éducatifs dans le sens où nous pouvons apprendre de leurs succès et de leurs échecs. Adam et Ève étaient des passeurs de blâme et désobéissants. Abraham était un menteur. Jacob était un intrigant. Joseph avait un peu l'attitude du « je suis meilleur que toi ». Moïse a fait des excuses. Saül était jaloux. David était un adultère. Salomon était un fou, le plus intelligent de l'histoire du monde. Élijah semblait être quelque peu bipolaire. L'apôtre Pierre avait définitivement la fièvre apteuse. La liste se rallonge de plus en plus. Peu importe votre personnalité, de vos luttes, il y a quelqu'un dans la Bible avec qui vous pouvez vous identifier, de qui vous pouvez apprendre. L'apôtre Paul a écrit « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple de Christ. » Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. En fin de compte, cela doit être notre objectif lorsque nous étudions les personnages bibliques. Là où ils ont réussi à suivre Dieu, nous devons les imiter. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. Le premier épître de Corinthiens, chapitre 10, on va lire à partir des versets 6 jusqu'à 13. En Corinthiens, chapitre 10, à partir des versets 6 jusqu'à 13. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne ayons pas de même un mauvais désir, comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne vous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Il parle du peuple d'Israël. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à tous ceux qui sont parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et ce matin, nous verrons ce que nous pouvons apprendre de la vie de quelqu'un dont la Bible dit très peu. Il y a seulement 3 versets par rapport à cette personne. Nous avons seulement 3 versets qui font mention de cet homme. Et cet homme est Démas. Je ne sais pas combien d'entre nous connaissons cet caractère. Donc, qui est ce Démas? Démas apparaît pour la première fois dans la Bible lorsqu'il était à Rome, pendant le premier emprisonnement de l'apôtre Paul, 60 à 62 ans après Jésus-Christ, Paul est assigné à résidence dans sa maison louée et est autorisé à recevoir des visiteurs. Nous trouvons Actes 28, 30 et 31. Dans le dernier chapitre du livre de Colossiens, il y a au moins 8 croyants avec Paul, à ce moment, qui sont connus par les saints de la vallée de Lycus, où se trouve Colosse. 6 d'entre eux enverront leur salutation aux églises de la vallée, nous trouvons Colossiens 4, 10 à 14, cinq d'entre eux verront également leur salutation personnelle à Philémon, à Colosse. Philémon 23, 24. Justice, apparemment, n'était pas connue de Philémon. Deux autres frères, Chichik et Onésime, ramenèrent les lettres dans la vallée. Alors, nous trouvons encore. Demas avait été à un moment donné l'un des compagnons de travail de Paul dans le ministère de l'Évangile avec Marc, Luc et d'autres. Je vais lire de Philémon 1:24. Vous pouvez noter si vous voulez. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Philémon 1:24. Pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome, Démas était également à Rome. Et Paul l'a dit, il écrit en Colossiens, pour les Colossiens 4:14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc, nous comprenons que Démas, il était avec Paul. Il existe également la preuve biblique que Démas était avec Paul pendant le deuxième emprisonnement de Paul à Rome, au moins pendant un certain temps. Puis, quelque chose s'est passé. Démas abandonna Paul, abandonna le ministère et quitta la ville. Paul a écrit à propos de cette triste situation. Pouvez tourner en 2 Timothée 4:10. Dans les deux autres lettres, il envoie la salutation de Démas qui appelle un co-ouvrier qui œuvre avec Paul. Mais ici, quand il écrit à Timothée, 2 Timothée 4:10, Paul dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc Paul, il est emprisonné, il attend son verdict, pas très loin de son exécution. Il attend son exécution. Et là, dans ce moment triste, Paul, il écrit à Timothée que « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas avait été à un moment donné l'un des compagnons de travail de Paul dans le ministère de l'Évangile avec Marc. Marc, c'est Jean-Marc, Luc et d'autres. Pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome, Démas était également à Rome. Et Paul, il fait mention de ça. Le verbe grec utilisé dans les écrits originaux implique que Démas n'avait pas simplement quitté Paul, mais avait laissé dans l'embarras. C'est-à-dire que Démas avait abandonné Paul en temps de besoin. Il a abandonné Paul dans le temps de besoin. L'apôtre était en prison, risquant la peine de mort. Et c'est à ce moment-là que Démas choisit d'abandonner Paul. Sans aucun doute, Paul a été profondément déçu par Démas. On peut imaginer quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui l'abandonne dans le moment crucial, dans le moment que vous avez plus besoin de cette personne. On peut imaginer le sentiment de l'apôtre Paul. Il n'est jamais facile de voir un ami et un associé en qui vous avez placé votre confiance vous abandonner au milieu des épreuves. Donc, nous allons voir, la Bible dit simplement, Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Il n'explique pas plus. Mais on peut voir pourquoi il aurait pu abandonner l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça a poussé Démas de quitter l'apôtre Paul. Pourquoi il a abandonné Paul? Nous ne savons rien d'autre que par la parole de l'apôtre, Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Nous comprenons que Démas n'a pas abandonné Paul quand tout se passait bien, mais à un moment où Paul était sur le point d'être exécuté. En fait, il était avec l'apôtre pendant les jours difficiles de son emprisonnement. Dans la première deux fois, nous voyons qu'il était avec l'apôtre Paul à Rome quand il était emprisonné chez lui. Paul parle de lui comme un compagnon dans l'œuvre pour le Seigneur. Mais quelle belle façon de dire que c'est un compagnon dans l'œuvre pour le Seigneur. Mais j'espère que chacun d'entre nous, nous avons un compagnon, nous traitons ou nous pensons à un frère ou sœur comme un compagnon dans l'œuvre pour le Seigneur, dans le ministère. C'est une chose d'avoir un ennemi qui vous fait du tort, mais cela fait mal à un tout autre niveau d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance qui vous abandonne lorsque vous en avez le plus besoin. Nous savons que Paul a déjà fait confiance à Démas. Paul a inclus son nom parmi les disciples respectés du Christ comme Luc le médecin et Démas envoie leur salutation. Colossiens 4, 14. Mais après avoir servi avec Paul et d'autres grandes personnes de foi, Démas les a abandonnés plus tard. Paul a dit que Démas l'avait abandonné parce qu'il aimait ce monde présent. Il quitta Paul et se dirigea vers Thessalonique, une grande ville riche et cosmopolite. Jacques a averti que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. L'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Jacques 4, 4. Le désir de profiter des plaisirs de ce monde l'a amené à tourner le dos à son ami et mentor et au Seigneur. Peut-être que le sacrifice de servir aux côtés de Paul a commencé à user sur lui. Imaginez que vous travaillez avec l'apôtre Paul dans l'emprisonnement, dans ses difficultés. Paul, les choses qu'il a subies, c'est énorme. Il a subi pour le Seigneur, il était très clair. Il a subi ces choses pour le Seigneur, mais imaginez que vous étiez avec l'apôtre Paul. Vous devrez quelque part prendre part dans ses souffrances. Ça ne devrait pas être facile. Mais ce n'est pas uniquement l'apôtre Paul, il était appelé pour souffrir pour le Seigneur. Et chaque disciple de Christ est appelé pour prendre la croix de Christ et souffrir avec lui. Si nous ne connaissons pas la souffrance de Christ, comment nous pouvons réjouir avec lui dans l'éternité? Il a vu d'autres hommes de son âge s'installer et profiter des plaisirs de cette vie. On ne connaît pas l'âge de cet homme, Démas. Peut-être qu'il était beaucoup plus jeune que l'apôtre Paul. Mais quand il a vu des autres personnes qui sont en train de s'amuser, prendre le plaisir de vivre leur vie, et peut-être qu'il était tenté, serait-il si mal de goûter à la bonne vie? Mais nous qui vivons dans ce monde, ce monde moderne, hein, nous connaissons combien de pression nous avons sur nous du monde. Le monde, il met beaucoup de pression, surtout avec les jeunes hommes et jeunes femmes. Ils ont beaucoup de pression, ils subissent beaucoup de pression de la part du monde. Et ce n'est pas facile. Et Démas, il n'était pas une exception, mais il était un serviteur de Dieu. Il était un collaborateur de l'apôtre Paul. Et Paul, avec beaucoup d'amour, il l'appelait comme un co-ouvrier il était un ouvrier avec lui pour le Seigneur. Puis Damas regarda Paul qui avait tant souffert pour Christ et quelle a été sa récompense. Et Paul, il a œuvré tant, il a subi autant de choses pour le Seigneur. Et quand il voit Paul dans la prison, en train d'attendre la fin de sa vie pour être exécuté par les Romains, et quel sentiment Damas il peut avoir. Ce n'est pas très encourageant de voir votre mentor et celui qui vous a formé dans le service du Seigneur, celui qui vous a conduit tout au long, et quand vous voyez que cette personne, il attend pour être exécuté par le gouvernement romain, et ça ne devrait pas être très encourageant pour cet homme, Damas. Et il devrait poser la question, était-ce ainsi que Dieu prenait soin de ses serviteurs? Dieu, il a, mais souvent, pour le nouvel an, on a la tendance de recevoir une promesse pour la nouvelle année, une promesse pour la nouvelle année que tout ira bien, et le Seigneur, il te portera dans les mains, et tu devrais craindre aucun mal. Et de belles promesses dans la Bible, bien sûr. Mais quand cet homme, Damas, il voit l'apôtre Paul en train de souffrir et en train de mourir dans une prison, dans la solitude, il devrait certainement penser que comment Dieu peut laisser ses serviteurs mourir ainsi? Et peut-être il était découragé, il voulait quitter. Nous ne connaissons pas la tourmente à l'intérieur de Damas. Au combien de temps il a lutté avec sa loyauté avant de céder à suivre ce monde. Certainement, il a lutté. Et parfois, on peut être avec un serviteur de Dieu. On peut être à l'église. On ne peut pas renier le fait que la lutte est là. Pour chaque enfant de Dieu, la lutte est là. Tant que nous sommes dans ce monde, nous devrions lutter. Il y a le combat à l'intérieur. Nous ne savons pas non plus s'il s'est jamais laissé du monde et s'il est retourné servir Jésus. La Bible ne parle pas de la fin de vie de Damas. Ce que nous savons, c'est que Damas a abandonné Paul alors qu'il était en prison en attente d'exécution. Le récit biblique montre que Damas n'était pas le premier missionnaire à déserter Paul. Il y avait une autre personne qui ne voulait pas aller avec l'apôtre Paul. Lors d'un voyage missionnaire antérieur avec Barnabas, Jean, appelé Marc, rompit la confiance avec Paul quand il a quitté leur équipe missionnaire pour retourner à Jérusalem. Nous voyons Actes 13:13. Plus tard, Marc a connu un changement du cœur. Mais Paul ne lui faisait plus confiance. Lorsque Barnabas voulut donner une seconde chance à Marc et l'inclure dans le voyage missionnaire ultérieur, Paul refusa catégoriquement. Paul et Barnabas se sont donc séparés. Barnabas partit avec Marc et Paul avec Silas. Acte des apôtres 15, 37 à 40, nous voyons cette partie. Cette histoire. Des années plus tard, cependant, Paul a dû reconnaître que Marc s'était avéré digne de confiance dans sa lettre à Timothée rapportant le triste choix de Damas. Paul a ajouté, prenez Marc et amenez-le avec moi, car il m'est très utile pour le ministère. C'est plus tard quand Paul se trouve dans la prison et il écrit à Timothée, prenez Marc et amenez-le avec vous, car il m'est très utile pour le ministère. Est-ce qu'ainsi que en écrivant sur Damas, il lui avait rappelé sa déception avec Marc il y a tant des années? Réfléchissons à ce qui a été la cause de l'abandon de Paul par Demas, la Bible nous dit que c'est l'amour du monde, l'amour du siècle. Demas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Nous avons l'exemple de Lot dans l'Ancien Testament, que quelqu'un oublie votre gentillesse n'est pas nouveau. Nous avons tous peut-être connu cette situation. Abraham a veillé sur son neveu Lot après le décès du père de Lot, mais lorsque leurs troupeaux en pleine croissance ont provoqué une guerre de territoire entre leurs bergers, Abraham a laissé Lot choisir où il voulait s'installer. Lot a choisi une ville prospère et les pâturages les plus luxuriants, laissant son oncle Abraham avec les restes. Lot semble avoir aimé les choses de ce monde plus qu'il n'a jamais qu'il n'a aimé Dieu. Donc nous voyons un peu en Lot ce désir, l'amour du monde, l'amour du siècle, bien que Lot il a vécu plusieurs centaines d'années avant Demas, et Demas a bien vécu plus que 2000 ans avant nous. L'amour du siècle présent, il est bien dans l'homme, dans chaque homme. Et le choix de Lot a causé des pertes dévastatrices à Lot et à sa famille. L'apôtre Jean a écrit aux croyants en Asie mineure. Prenez avec moi un premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Paul ne nous dit pas quel aspect du système mondial actuel Demas aimait. Il ne dit pas si c'est la gloire, ou la fortune, ou la gratification de la chair. L'apôtre Paul ne nous donne aucun détail sur ce que Demas a fait. Il a simplement dit, en aimant ce monde présent, en aimant le siècle présent, le temps présent. Ce monde n'a que trois attraits pour éloigner le croyant de son amour pour le Seigneur. Premièrement, il y a le convoitise de la chair. La convoitise de la chair, ce que l'apôtre Jean, il écrit, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Et enfin, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Le premier, la convoitise de la chair, a à voir avec la gratification de la chair. Ce qui me fait sentir bien physiquement. On connaît les domaines où on est faible. Inclus dans cet attrait serait le péché sexuel, la gourmandise. Pour la gourmandise, la France, dans notre pays, la France, on est connu. On achète beaucoup de bonnes choses pour fêter les fêtes de fin d'année, pour Noël ou pour jour de l'an. La gourmandise, la consommation de la drogue ou de l'ivresse, l'alcool. Et donc, tout ça, c'est la convoitise de la chair. Ça peut être le sport aussi. Ça peut être tout ce qu'on peut appliquer pour paraître beau ou belle. La convoitise de la chair. La deuxième catégorie est la convoitise des yeux. Quelle possession de ce monde pourrait me rendre heureux? Convoitise des yeux. Ces péchés seraient ce que nous voyons et désirons avoir, mais l'objet que nous voulons n'est pas le nôtre parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. La convoitise, c'est le dixième commandement, parmi les dix commandements, et c'est la convoitise. Tu convoiteras point. Et désirer ce que nous appartient pas. Désirer tout ce que nous appartient pas. C'est ce qu'on appelle la convoitise. La dernière catégorie est la fierté de la vie. La fierté de la vie. Ce que je veux être. C'est l'arrogance que l'on a quand on se vante de nous-mêmes et de nos réalisations ou de nos biens. Quel que soit l'amour de Damas pour le monde, il tombait dans au moins une de ces trois catégories. Quand Paul il dit qu'il est parti pour l'amour de ce siècle, on peut deviner qu'il est tombé dans une de ces trois catégories de péché, de tentation. Fait intéressant, Adam et Ève ont été tentés de désobéir le Seigneur dans le jardin d'Éden par ces trois mêmes tactiques. Dans les conditions les plus parfaites que les humains aient jamais vécues, Satan est venu à Ève déguisé en serpent et a jeté le doute sur la parole de Dieu, puis l'a ouvertement défié la parole de Dieu. Genèse chapitre 3. Ainsi, quand Ève vit que l'arbre était bon pour la nourriture, c'est la convoitise de la chair, qu'il était agréable aux yeux, convoitise des yeux, un arbre désirable pour rendre sage, comme l'orgueil de la vie. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons dans le petit appareil, on va être plus sage, plus intelligent que tout, plus instruit, plus informé que n'importe qui. On veut paraître intelligent et sage. Vous pouvez avoir toute l'information du monde dans le poignet de votre main. Et pourquoi on a la fierté de la vie? D'autre part, le Seigneur Jésus, après avoir été baptisé, a été mis à l'épreuve par le diable dans les conditions les plus imparfaites pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, nous voyons la tentation du Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus est présent comme l'homme parfait, dont le dernier Adam. Luc rapporte la généalogie de Marie où sa lignée remonte à Adam. Donc, Luc démontre le Seigneur Jésus comme l'homme parfait. La première épreuve de Satan a été mettre au défi le Seigneur Jésus de transformer la pierre en pain. Il dit que voilà la pierre, tu peux transformer, tu as faim. Et il était certainement faim parce qu'il avait jeûné et prié pendant 40 jours. Il avait faim. Et donc Satan, il l'approche, il dit que voici les pierres, tu peux transformer avec tout le pouvoir que tu as, tu peux transformer ces pierres en pain, tu peux manger, tu peux rassasier de ces pains. Voici le convoitise de la chair, le désir d'avoir de la nourriture physique pendant qu'il jeûnait. Mais Jésus a répondu à Satan par la parole de Dieu en disant, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de chaque parole de Dieu. Et il citait Deutéronome 8, 3. Dans la deuxième épreuve, Satan amène le Seigneur Jésus sur une haute montagne et lui montre tout le royaume du monde et dit qu'il pourrait tout être ce du Seigneur si seulement s'il s'inclinait et adorait Satan. Satan l'a testé avec la convoitise des yeux parce qu'il avait le désir de voir et de convoiter ce qui n'était pas le sien. Et il montre, il l'amène dans le haut de montagne, il montre tout le paysage, il dit que, voilà, tu peux, tu vois tout cela, et je te donnerai, si seulement tu vas incliner et m'adorer. Ce système mondial était sous la domination de Satan. Et Satan, et Jésus, il a réfuté Satan encore une fois par la parole de Dieu. Et tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul tu serviras. Encore, il citait de Deutéronome 6, 13 et 10, 20. Et l'épreuve finale, Satan amène le Seigneur Jésus au sommet du temple et dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Puis il procéda à une citation erronée de Psaume 91, 11-12. Voici une attaque contre la divinité du Seigneur Jésus. Il était le Fils de Dieu, pourtant Satan attaquait avec cette tentation, l'orgueil de la vie. Mais il avait pas le péché en lui-même, le Seigneur Jésus. Il n'a pas connu le péché, mais Satan il a voulu tenter le Seigneur Jésus-Christ avec la même tactique que l'apôtre Jean il parle dans son épître, le convoitise de la chair et le convoitise des yeux et le fierté de la vie. Donc, mais, fait intéressant, Jésus a passé les trois mêmes tests dans la condition la plus que Adam et Ève ont échoué. Dans les conditions les plus parfaites dans le jardin d'Éden, quel était le secret de sa victoire? Comment Jésus il a vaincu Satan? Comment il a vaincu la tentation? Tout d'abord, Luc nous dit que le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et nous trouvons Luc 4, verset 1 et verset 14, aussi en Éphésiens 5, 18. Deuxièmement, il connaissait et utilisait la parole de Dieu comme Satan. Contre Satan chaque fois qu'il était mis à l'épreuve. Cela devrait être un encouragement pour chaque croyant à être rempli de l'Esprit et revêtir toute l'armure de Dieu qui comprend l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et maintenant, quelle application on peut prendre de ce passage, sur la vie de cet homme, Démas, qui a abandonné l'apôtre Paul. Il n'a pas simplement abandonné l'apôtre Paul, il a aussi abandonné sa ministère. Il a quitté le ministère pour le monde, pour le siècle présent. Donc, l'application, le croyant au Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas limiter la vie ne devrait pas imiter la vie de Démas. On ne devrait pas certainement imiter la vie de Démas. Il y a au moins trois choses que nous pouvons apprendre de la vie de ce croyant, pourtant égaré. Premièrement, nous devrions avoir une perspective éternelle sur la vie et ne pas aimer ce système mondial actuel qui cherche à nous faire trébucher et nous éloigner de notre amour pour le Seigneur et sa parole. Le monde constamment, il est en train de dire que comme au premier jour, quand Satan, dans la forme de serpent, il a approché Adam et Ève pour dire que c'est ainsi que Dieu l'a parlé. Dieu n'a pas dit ainsi. Donc, il a pris la parole de Dieu, il a tordu la parole de Dieu pour mentir. Hein, le père de tout mensonge. Donc, premièrement, nous devrions avoir une perspective éternelle. Donc, nous devrions poser la question. Pendant notre vie terrestre, quand nous vivons dans ce monde, quelle est notre perspective? Est-ce que nous avons une perspective terrestre ou nous avons une perspective céleste ou une perspective temporelle ou une perspective éternelle? Quelle est notre perspective, notre vue de ce monde et tout ce qu'il contient? Et toutes ces choses vont disparaître un jour. Toutes ces choses vont disparaître un jour. Et Satan, il met toutes ces choses devant nous pour nous faire trébucher dans notre marche avec le Seigneur. Comme il a fait pour cet homme Demas. Ce système mondial est en train de disparaître, donc cela devrait nous encourager à vivre pour le royaume à venir et la récompense éternelle. Donc, c'est sûr et certain que tout ce que nous pouvons voir et l'avoir vont disparaître un jour. On ne peut pas garder ces choses. Nous ne pouvons pas garder ces choses. Et toutes ces choses sont temporelles et nous allons perdre un jour. Nous allons perdre un jour, mais il faut que nous ayons nos yeux sur les choses éternelles, comme c'est écrit dans le livre de Hébreux. Abraham, il avait une vue sur la cité qui était loin, mais il avait le vue, son vue sur cette cité céleste. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de Demas, c'est qu'aucun chrétien n'est à l'abri d'aimer ce monde présent et quitter l'œuvre du Seigneur et le peuple du Seigneur. Et on ne peut pas penser que Demas l'a fait il y a 2000 ans, mais je suis à l'abri de ces choses. Non, nous ne sommes pas à l'abri. Chaque chrétien est exposé à toutes ces tentations. Si le Seigneur n'était pas épargné de ces tentations, pourquoi nous devrions être épargnés? Et nous sommes tentés presque tous les jours et chaque moment que vous désirez de vivre pour le Seigneur et vous désirez marcher avec le Seigneur. Paul a écrit et réprimandé de croyants corinthiens, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'attrait de ce monde se divise en trois catégories, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le Seigneur Jésus a été mis à l'épreuve de la même manière, mais il a passé ses tests avec succès parce qu'il était rempli de l'Esprit et utilisé la parole de Dieu quand Satan a attaqué. Paul a poursuivi en disant aux croyants corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes tentés? Est-ce qu'on garde cette tentation? On lutte en secret et un jour on va partir, on va quitter le Seigneur, on va quitter notre marche avec le Seigneur, on va quitter le peuple de Dieu. Si on lutte avec la tentation, dans le secret de notre, dans le profondeur de notre cœur. Mais je pense que Demas, quand il était tenté, il aurait pu parler avec Paul. Il aurait pu parler avec l'apôtre Paul. Écoute, j'ai cette tentation. Je suis tenté dans ce domaine. Où il avait des autres ministres de Christ avec l'apôtre Paul. Il y avait des autres jeunes gens. Il aurait pu parler avec eux. mais il a gardé et il a quelque part chéri ces choses dans son cœur et il a enfin quitté l'œuvre de Christ. Il est parti pour l'amour, par amour pour le siècle, pour ce monde. Nous devrions chercher cette trappe d'évacuation lorsque la tentation viendra. Le croyant doit aussi se rendre compte que la grâce de Dieu nous enseigne à fuir l'impiété et la convoitise mondaine et que nous devons vivre sobrement d'une manière juste et pieusement dans ce monde présent. Tite 2:12, nous lisons, elle nous enseigne à renoncer l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, voilà ce qu'il faut, faire pour vivre dans cette, dans ce monde. Demas, si Demas était pour l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, il avait ses disciples aussi. Il avait sa part. Il avait Judas qui marchait avec lui pendant 3 ans et demi. Et il le savait. Il le savait ce que Judas il va faire. Mais pourtant, il avait gardé Judas avec lui. Peut-être l'apôtre Paul, il ne savait pas que Demas il va quitter. On voit dans son écrit qu'il avait ressenti une grande douleur dans son cœur quand Demas il l'a quitté. Mais le Seigneur Jésus, il savait que Judas il va faire. Il va le trahir un jour. Et il savait très bien que Pierre, qui était si proche avec le Seigneur Jésus, il va le renier 3 fois. Il a même rappelé l'apôtre Pierre que avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Il savait. Donc, l'apôtre Paul, ce n'est pas la première personne qui peut sentir cet abandon. Jésus-Christ, il a senti l'abandon quand aucun de ses disciples n'était avec lui pendant le moment de souffrance, avant sa mort. Et il a crié à son père, « Mon père, mon père, pourquoi tu m'as abandonné ?» La troisième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Demas est que l'espoir de retour du Seigneur devrait changer notre façon de vivre maintenant. Et si nous espérons vivement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, si simplement Demas il savait que le Seigneur il vient très vite, très bientôt, est-ce qu'il aurait pu prendre ce choix d'abandonner le ministère pour quitter? Mais quelque part, il a pensé que le Seigneur il viendra pas maintenant. Je vais m'amuser encore. Je vais vivre dans le monde encore. C'est pourquoi Demas il a pu quitter. Mais si nous désirons pas ardemment que le Seigneur Jésus vient très bientôt, nous pourrons pas vivre pour le Seigneur tous les jours. Si Demas continuait dans son amour pour le monde, il finirait par avoir honte de la venue du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il tiendrait devant le trône de jugement de Christ et que ses œuvres se manifesteraient. À ce stade, il aurait son nouveau corps exempt de péché et se dirait « Pourquoi ai-je gâché ma vie ? Je vivais pour le temps, mais pas pour l'éternité. Vivons pour ce monde et non pour le royaume à venir. » D'autre part, si Demas avait vécu à la lumière du retour de Christ, cela lui aurait donné une espérance purificatrice parce qu'il savait qu'un jour, il serait comme le Seigneur Jésus. Avec nos luttes, avec notre tentation, avec notre combat avec le péché. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous serons purs comme lui, comme Jésus-Christ. Ce sera la fin de toutes ces luttes. Il commencera à vivre maintenant à la lumière de l'éternité et pour des récompenses dans le royaume à venir. Nous avons une seule vie. Et cette vie, sitôt passera, seul ce qui est fait pour Christ durera. Nous n'avons pas une autre vie à vivre. Nous avons une seule vie sur cette terre. Et cette vie sitôt passera, seul ce qui est fait pour Christ durera. Et nous devrions faire un compte pour demander qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce monde. Est-ce que nous sommes en train de faire les choses pour le Seigneur ou pour des choses vaines? Nous vivons vainement. Et aussi, on peut penser, quand nous pensons à cet homme Démas, vous savez, le Seigneur, il a donné cette parabole de semeur. Et dans la parabole de semeur, il y a quatre terres. Et une de cette semence, une autre, je vais lire dans Matthieu, je vais lire pour vous, Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montrèrent et étouffèrent. Et l'explication donnée par le Seigneur est dans le verset 24. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et rendent infructueuse. Donc, c'est quand nous étudions la vie de cet homme qui est parti avec l'amour pour le siècle, nous devrions poser la question, c'est notre cœur, il est quel type de terrain que le Seigneur il a expliqué dans la parabole. Est-ce qu'il y a des épines et des choses qui poussent avec, qui peut étouffer la parole de Dieu? Nous lisons tous les jours, nous écoutons la parole de Dieu, mais est-ce que nous avons gardé notre cœur pur, puisque la parole de Dieu peut s'épanouir dans notre cœur pour changer notre vie? Où nous gardons ces épines, des autres choses, on laisse pousser, finalement, il y a un moment donné, ces choses, elles étouffent la parole de Dieu. Et la vie éternelle, la vie n'est plus. Et cet homme, Démas, il avait ses yeux ailleurs. Il était dans l'œuvre, mais il avait ses yeux ailleurs. C'est en Hébreux 11, 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Avons-nous l'esprit de Moïse, de serviteur de Dieu? La Bible nous dit que où ton trésor il est, ton cœur il est aussi dans le même endroit. Et qu'est-ce que nous considérons comme trésor dans notre vie? Est-ce que Christ est notre trésor? Ou le monde. Mais le mentor de Démas, l'apôtre Paul, il l'a dit ainsi dans son épître aux Philippiens. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mais c'est étonnant de voir comment, pour un tel maître, on peut avoir un tel disciple. Mais nous avons eu l'opportunité pour vivre avec l'apôtre Paul, est-ce que nous pourrions faire quelque chose comme Démas l'a fait? Je pense parfois, oui, ce n'est pas être dans une bonne église, ce n'est pas avoir une bonne Bible, un bon Bible, on est changé. Hein. C'est par rapport à notre cœur et notre relation avec Dieu. Et par rapport à notre marche avec le Seigneur. Et par rapport à notre perspective de la vie, des choses terrestres, Qu'est-ce que nous chérissons le plus dans notre vie? C'est ça la question. Donc, cet homme Demas, il est parti pour l'amour du monde, amour de siècle. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme Demas, ne pas avoir cet esprit de Demas, mais plutôt avoir l'esprit de l'apôtre Paul qui a considéré tout comme comme de la boue. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes pour lui, pour vivre pour lui. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, pour tous ces exemples que nous avons dans ta parole. L'apôtre Paul, ton serviteur Moïse, ton serviteur Abraham, et ton serviteur David, et tant de personnes, Seigneur, des hommes et des femmes, qui nous inspirent. Et au-dessus de toutes choses, Seigneur, mais nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était tenté comme nous en toutes choses, mais qui n'a jamais commis le péché. Seigneur, tu nous as demandé d'aimer Dieu avec tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Seigneur, quand l'apôtre Pierre, il t'a renié à trois fois, Seigneur, tu as venu vers lui pour poser cette question. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, nous savons que ce matin, tu nous poses la même question à chacun. M'aimes-tu? Seigneur, oui, Seigneur, nous devrions réfléchir dans notre cœur pour te répondre. Pour te répondre combien nous t'aimons. Est-ce que nous t'aimons plus que toute chose, plus que toute autre chose dans ce monde? Seigneur, donne-nous ton amour pour que nous pourrons te aimer en premier. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.